Daiquiri.
L'émission LGBTQ transpé des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Bonsoir.
Bonsoir, il est 18h sur Pile. Radio Primitive. J'allais dire 19, je suis déjà complètement décalée. Et on a coupé la chic à une membre de la communauté LGBT qui vient de Reims en plus. Léonie Pernet, juste avant la prise de Daiquiri sur Radio Primitive. On va passer une heure ensemble, comme chaque mois, sur le 92.4 FM à Reims. Et aujourd'hui, la fois d'avant, on vous a parlé de personnes réfugiées avec l'association Lardis.
Et cette fois, vous allez entendre une voix que vous avez déjà entendue dans la radio.
Si vous êtes très assidu de ce rendez-vous de Daiquiri, puisque je crois qu'on t'a reçu la saison passée, Bérangère. Ouais, bonjour à toi.
Bonjour. Oui, ah, c'est bien cela. Il y a un an et demi, je crois.
Eh ouais.
T'en passes vite.
Eh oui, parce que alors, on t'avait certainement reçu sur des sujets plutôt liés au cyberharcèlement, n'est-ce pas ? Puisque toi, c'est un peu ta spécialité à la base.
Tout à fait.
Tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Mais ça a changé ou pas du tout ?
Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours à l'UL et toujours dans la même équipe de recherche au sein du CREM, donc l'équipe qui s'appelle Pixel, qui est axée sur les pratiques numériques au sens large.
Super. Et comme tu es de chez nous et qu'en plus tu t'intéresses aux personnes de notre communauté, eh bien, on a décidé de t'inviter, mais surtout parce que tu as fait paraître un papier
tout frais,
qu'on a eu l'occasion de lire un peu en avant-première. On était contentes. Et justement, on va en parler ensemble de cette parution. Une enquête sur les personnes trans et les pratiques qu'elles ont pour chercher des informations sur Internet. Est-ce que je me trompe déjà sur cette formulation ?
Non, c'est bien ça.
Je vous propose qu'on attaque par quelque chose d'un petit peu plus léger, et puis on attaquera le dur de notre sujet juste après. Mais on va commencer par, j'allais dire une pépite, mais une pépite pour toi
peut-être.
Non,
c'est pas. Alors déjà, je l'ai loupée parce que ça fait 6 mois qu'elle est sortie.
Et c'est c'est nouveau en plus.
Elle date de 6 mois et en fait c'est genre checker mes trucs YouTube et je fais Brit, elle a posté quelque chose et j'ai pas vu, zut. Et du coup c'est, alors je vous présente pas Britney Spears, je vous présente pas la personne avec qui elle fait son duo parce que c'est Elton John. Alors si vous ne connaissez pas les deux, vous n'êtes pas partie de la communauté LGBT déjà. C'est sûr.
Elle est dure.
Et c'est pas la première fois qu'ils se croisent parce que techniquement ils ont tous les deux été dans la magnifique série qui est passée dans les années 80, Will and Grace, où ils arrivent en guest. Où Elton John il fait un parrain de la mafia gay et Britney elle fait une secrétaire de télé complètement conne. Et donc du coup c'était déjà, alors je sais pas s'ils se sont rencontrés parce que c'est pas dans les mêmes saisons, mais en tout cas ils étaient déjà liés et là maintenant ils ont fait un duo ensemble, donc on va l'écouter.
Mais
tout
ça
de suite.
Veut dire que Brit elle a fini ses histoires de procès et maintenant elle se remet à la musique.
Elle est free Britney et maintenant normalement elle peut faire des choses avec des gens de la mafia gay.
Super, alors on écoute ce titre qui s'appelle Hold Me.
Along the sand.
Moi j'allais dire, et puis juste avant qu'elle fasse. Bref, c'était Britney Spears.
Bon, j'avoue, peut-être pas parce que je l'ai pas écouté 40 fois, mais ouais, ça passe. Bon, c'est,
oui,
c'est mignon.
Non, mais je pense que nous devions envers notre communauté de passer ce titre. Donc vous venez d'écouter. Si vous nous rejoignez dans Daiquiri, Britney Spears en duo avec Sir Elton John, s'il vous plaît. Hold Me Closer, si vous voulez retrouver le titre. Aujourd'hui, dans Daiquiri, nous allons parler d'une enquête que tu as menée, Bérangère, et bien par chez nous, mais pas que. Tu vas nous parler de cette enquête, justement, qui questionne les personnes trans sur leur pratique de recherche d'informations sur Internet. Mais déjà, avant qu'on aborde ton étude et puis les résultats de cette enquête, est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà tu t'es orientée vers ce type de questions ? Pourquoi les personnes trans et pourquoi ce sujet en particulier ?
D'accord. Alors, la question des pratiques informationnelles, c'est une question qui m'intéresse depuis que je fais de la recherche en infocom, puisque j'ai déjà fait une thèse qui abordait la question des pratiques informationnelles et des pratiques numériques des bibliothécaires. C'était pas tout à fait le même sujet, mais de fil en aiguille, je me suis intéressée à plusieurs groupes sociaux, dont les personnes trans. Alors, mais précisément, c'est venu en trois temps. Donc je vais essayer de vous la faire courte, mais c'est hyper important que je restitue un peu l'historique de cet intérêt pour les pratiques informationnelles. En 2017, j'ai passé beaucoup de temps dans la magnifique ville de Brighton en Angleterre, qui est très connue pour sa communauté queer, LGBT, etc. Et je fréquentais un lieu qui s'appelait le Marly. C'est une sorte de tiers-lieu qui était à la fois un pub, un théâtre.
Je connais Marly Gaumont, mais je connais pas...
Oui, c'est pas le même style, mais c'est le même nom. Je pense que c'est fermé désormais, mais bon. Donc, ce bar avait la particularité d'être fréquenté par beaucoup de lesbiennes cis, mais aussi par beaucoup de personnes queer et beaucoup de personnes trans.
Parce que toi-même, tu es lesbienne. Voilà, on vient de te outer.
Tout à fait. D'ailleurs, je le dis clairement dans le papier, je suis effectivement lesbienne cis. Donc, au Marly, j'allais jouer au billard anglais avec des personnes trans et je passais beaucoup de temps dans ce pub, dans ce bar, etc. J'étais assez intriguée par la documentation qui était affichée au mur. Puisque le bar était fréquenté par de plus en plus de personnes trans, bien qu'il y avait surtout beaucoup de personnes lesbiennes, etc., c'était pas toujours, on va dire, acté pour les femmes lesbiennes cis, qu'il ne fallait pas mégenrer des personnes trans, qu'il ne fallait pas poser la question du dead name, etc. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses pendant cet été 2017 et j'ai fait beaucoup de gaffes. Mais sur les murs du bar ou dans les toilettes, il y avait des sortes d'affiches, enfin des documents qui avaient été produits par les personnes du bar, je suppose, qui expliquaient qu'est-ce qu'un dead name, pourquoi il est important de demander à la personne quel pronom elle utilise, etc. Il y avait toutes sortes de schémas et en fait... comme vous l'avez compris, je m'intéresse à l'information, aux documents, etc. J'ai commencé à prendre ces affiches en photo en me disant « Ah ben tiens, ça sera intéressant, je montrerai ça à mes étudiants à la rentrée quand on travaillera à la question de médiation, de l'information, médiation documentaire, etc. » Donc en gros, voilà, le document, la documentation la documentation trans m'a d'abord interpellée à Brighton. Ensuite, 2017-2018, j'étais donc à Nancy, puisque je travaille là-bas, donc j'y passe quand même beaucoup de temps. Et je fréquentais un bar qui s'appelait le Short Bus, qui n'existe plus non plus, hein, malheureusement. Tous nos lieux LGBT ferment les uns après les autres. Et dans ce bar, j'ai connu deux femmes trans, mais qui étaient au tout début de leur transition, dont une femme trans qui a eu un rôle quand même important dans le déclenchement de mon envie de travailler là-dessus, qui est Mika Alizon, que l'on connaît, puisque nous l'avons reçue dans l'association ouais. Ex Aequo pendant le festival Les Bisqueers, qui est donc auteur de La Trans Enseignante, un livre où elle explique son parcours trans. Je l'ai connue au début de sa transition et régulièrement, elle m'envoyait des photos pour me montrer l'évolution
De la transition. Et c'est quelqu'un qui faisait partie de l'association Contact aussi, je crois, oui. Directement oui. Là-bas.
Et de Couleur Gay aussi. Oui. Donc elle m'envoyait des photos, elle montrait l'évolution de son visage, etc. Et à chaque fois qu'on allait boire un verre ensemble, on parlait hormones, on parlait traitements médicaux, chirurgie, etc. Et je voyais qu'elle avait vraiment une expertise qui était assez intéressante. Et parallèlement, l'autre copine trans, qui était aussi au début de sa transition, développait aussi. Alors elle était plutôt dans un... la première était dans un parcours très, on va dire, cadré, médical. L'autre personne se fournissait plutôt en hormones sur le dark web. Toujours est-il qu'elle elle avait également beaucoup de connaissances. Et je voyais bien au fil des mois qu'il y avait un savoir médical qui s'était développé, ce qui rejoint aussi mes préoccupations scientifiques, la question des savoirs profanes, expérientiels, etc. Donc, j'ai commencé voilà, aussi à me dire, tiens, c'est intéressant, les personnes, en fait, à la fois deviennent auto-ethnographes de leur propre parcours en se prenant en photo régulièrement, et on a vraiment une archive... photographique des évolutions et développe en plus des savoirs médicaux sur les traitements, les chirurgies, etc. Beaucoup de liens se faisaient avec les traitements médicaux que je prends moi-même par rapport à l'endométriose et je me rendais compte que mes copines trans pouvaient me tenir informée de l'évolution du luténil ou de toutes ces hormones qui sont assez controversées puisqu'il y a plein d'effets secondaires. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de s'informer en tant que femme cis sur les conséquences des traitements hormonaux via des femmes trans qui prennent des traitements
hormonaux. Le même traitement, ouais.
Donc voilà.
Ce qui est beau, c'est que même au bar, tu arrives à penser à ce que tu fais dans tes études. Je trouve ça très professionnel.
Le lien se fait naturellement. Ouais,
c'est beau, c'est beau.
Et le troisième, qui là a vraiment été le déclenchement, c'est-à-dire là, je me suis dit, il faut que j'y aille, c'est l'enquête sur le cyberharcèlement dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc j'ai enquêté dans des lycées de l'Académie de Nancy, Metz, Reims, auprès de lycéens que je rencontrais à plusieurs reprises. En seconde, en première et en terminale. Et j'avais rencontré une personne une première fois. Et quand je l'ai retrouvée la deuxième fois, elle avait fait un coming out. Donc elle s'est présentée sous son identité de jeune fille trans. Et deux choses m'ont intéressée. Une année auparavant, alors qu'elle était encore sous son identité masculine, elle n'avait pas d'expérience de harcèlement ou de cyberharcèlement à me restituer, si ce n'est des événements dont elle avait été témoin au cours de sa scolarité. En revanche, depuis qu'elle avait fait son coming out au lycée, ça se passait très mal. Bon, elle n'a pas employé le terme harcèlement, mais il y avait beaucoup de brimades. Ça se passait très mal chez ses parents. Enfin, les parents n'acceptaient pas du tout, etc. Et elle m'a expliqué qu'elle passait beaucoup de temps sur Discord et sur différents sites en ligne, sites internet, etc., pour se renseigner sur la transition, pour expliquer à ses parents ce que c'était. Et elle m'a dit « ils m'envoient voir un psy ». J'ai pas le choix, ils veulent que j'aille voir un psy, donc j'y vais. Et ce psy ne comprend rien, il ne sait pas ce que c'est la transidentité. Donc je prépare des fiches et j'apprends plein de choses pour ensuite enseigner ces choses à mon psy. Et là, je me suis dit, bon, le lien se fait encore une fois avec cette question de savoir expérientiel, profane, recherche d'informations, etc.
C'est fou, au point d'éduquer ses propres soignants.
Oui, et ses propres parents. Ah. Aussi. Et d'ailleurs, si vous regardez donc l'article là dont on parle, il est paru dans le numéro 5 de la revue Balisage. Et il y a un deuxième article dédié aux pratiques informationnelles trans qui a été écrit par mon collègue Arthur Boulet. Et lui, il s'intéresse à la manière dont les adolescents vont socialiser leurs parents et leurs familles aux questions trans dès lors qu'ils font un coming out à l'adolescence et que les parents acceptent ou non de les encadrer.
Dans ton enquête, du coup, tu as choisi quoi comme méthode pour bah, du coup, faire voir ce que tu avais commencé à poindre?
Oui, alors au tout début, donc, l'idée, bon, c'est ce que je fais toujours, hein, c'est surtout une méthode qualitative par entretien. Et puis, enfin, entretien et ce qu'on va appeler, alors bon, je vais prendre les termes un peu techniques, observation, participante, non participante, etc. Mais là, comme tu le sais, cette enquête, elle a été menée dans une association que tu connais bien, qui s'appelle Execo.
Parce que j'ai participé à l'enquête, hein, spoiler alerte.
Voilà, donc là, moi, j'ai décidé de faire des entretiens, mais vraiment d'aller parler, de participer à des groupes, etc. Donc je suis un samedi matin venu à Execo, où je t'ai rencontré,
oui.
Puisque tu étais et tu es toujours responsable du groupe Genre en question, donc dédié à des personnes trans, non-binaires ou en questionnement.
Exactement.
Je t'ai parlé de mon projet de, ben, d'enquêter sur les pratiques informationnelles des personnes trans, et j'insiste bien pour nos auditeurs et auditrices que c'est des pratiques informationnelles qui m'intéressent et pas en soi qu'est-ce que la transidentité, etc. Je suis pas du tout... Enfin, je me revendique pas et j'ai pas la prétention d'être en gender studies, queer studies, etc. Je reste à ma place information-documentation et je t'ai dit, voilà, j'aimerais un peu cartographier les sites que les personnes mobilisent, les ressources documentaires informationnelles et si possible discuter avec elles, m'entretenir de manière formelle ou informelle. Et tu m'as très gentiment ouvert la porte du groupe Genre en question.
Ah, moi, ça me faisait un sujet pour un des rendez-vous qu'on faisait, donc c'était parfait.
C'est vrai qu'on a organisé un genre en question spécial pratique numérique internet des personnes trans et LGBT. On a plus commencé à parler un peu de la manière dont on a tous mobilisé internet ou non quand on a pas, enfin quand on a grandi avant l'arrivée du web, etc. Donc, par ce biais, j'ai rencontré plusieurs personnes du groupe qui donc, ont accepté de s'entretenir avec moi. On a fait des entretiens qui ont duré entre 1 et 2 heures, parfois dans un bar, parfois chez moi, parfois chez des personnes. J'ai également été invitée par une de ces personnes à m'inscrire sur un serveur Discord qu'elle anime et qui est dédié aussi, on va dire, à un partage d'informations, de savoirs et de différents documents en lien avec la transition. Donc je me suis inscrite sur le serveur de manière très officielle, hein, en tant que Bérangère, chercheuse en infocom, mais également personne lesbienne fréquentant l'association. Et donc j'ai observé ce qui se passait sur Discord, réalisé des entretiens. J'ai aussi analysé beaucoup de sites web. D'ailleurs, il y a un papier, enfin par ramification, qui était paru avant cette étude, mais sur le Wikitrans.
Oui, moi qui venais de sortir...
Oui. En 2018.
Ouais, c'est ça, juste après.
D'ailleurs,
j'ai eu un super beau boulot et comme, enfin, un travail. Si vous avez des infos sur les transidentités, allez dessus. Il y a vraiment tout et c'est vraiment quali, quoi.
Ouais, je pensais qu'on redonnerait les ressources, peut-être les gros sites, c'est la number one.
D'ailleurs, pourquoi je me suis intéressée à Wikitrans, c'est que dans les entretiens que je faisais, c'est le nom qui revenait tout le temps. Hein. Les personnes mentionnaient plein de choses, dont Wikitrans. Mmh. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait. Et puis, comme je le dis dans l'enquête, hein, on est plutôt dans une démarche dite ethnographique, puisque de fil en aiguille, j'ai basculé dans l'activité d'Execo, j'en suis devenue membre du CA, membre de l'équipe IMS, et là j'ai fait plein de choses, et d'ailleurs je continue à faire plein de choses pour, on va dire, les interventions en milieu scolaire. On a reçu des auteurs, dont des auteurs trans, on a reçu Laurier The Fox... Qui a
très chouette rencontre avec des écoliers, des élèves, c'est super bien passé.
3 collèges de Reims hein, ont rencontré, enfin plusieurs classes de 3e de 3 collèges de Reims ont rencontré cet auteur et ça c'était hyper intéressant. Et c'est vrai que enfin, un point important dans ce type d'enquête, si on peut pas arriver, déjà il y a tout un travail de socialisation à faire. Enfin, moi, très honnêtement, c'est pas parce que je suis une femme cis lesbienne, et comme je vous l'ai dit, ne venant pas des queer studies, etc., que je savais tout sur les personnes trans. J'ignorais beaucoup de choses. J'avais moi-même beaucoup de stéréotypes. Il a fallu lever des préjugés, tout ça. Enfin, ça, c'était un travail aussi très intéressant sur le plan personnel, et puis me socialiser à tous ces termes, théories, etc.
Parce qu'on a... On a notre propre vocabulaire.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que le travail en immersion totale, c'était intéressant. Et puis, voilà, on est plus dans une démarche de co-construction des savoirs, puisque Gwen, tu as été une de mes principales ressources pour quand j'avais des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, ah tiens, j'ai lu ça, etc. Et puis, l'autre personne qui anime un serveur Discord m'a aussi beaucoup, beaucoup renseigné, beaucoup documenté. Et les personnes que j'avais interviewées n'ont... Enfin, en fait, ce qui était intéressant, c'est que régulièrement, elles m'envoyaient des textos pour me dire, tiens, on a parlé de ça l'autre jour, il y a tel article qui est sorti, ou tel auteur a publié telle bande dessinée, tu devrais la lire.
Ça va. Ouais. Pendant ton travail, quoi.
Tout à fait. Et puis, c'est rajouté aussi des entretiens à Nancy.
Parce que je me dis, t'as pas fait que sur Reims, il y a aussi des personnes à Nancy que t'as rencontrées.
Trois. Qui sont des étudiants, alors qu'ils ne sont pas directement des étudiants à moi, donc c'est trois garçons trans, mais que j'ai rencontrés, on va dire, par le biais de mon activité professionnelle, dont une personne sur un terrain de recherche dans les centres, enfin dans les CDI des lycées de Nancy, pour un autre projet que je mène avec des collègues de Nancy. Un des assistants d'éducation était un garçon trans.
D'accord. Donc toi, c'est ton mode d'enquête, c'est plutôt l'entretien direct. Mais est-ce que tu as croisé ça avec des lectures sur le sujet ? Est-ce qu'il y avait déjà des productions en ce sens ? Est-ce que tu as trouvé des choses ?
Alors, je dis bien sur les... Ouais, par rapport aux pratiques informationnelles trans, hein, parce que bon, sur les personnes trans, on sait qu'on a... une documentation, on a plein d'auteurs.
Et surtout que ça avance de plus en plus, vu que maintenant, on en parle enfin.
Tout à fait. Mais bon, on connaît tous nos classiques, Boursier, Karine Espinera, etc. Donc ça, forcément, c'est des ressources importantes. Mais sur vraiment les pratiques informationnelles des personnes trans, il existe peu de travaux vraiment dans le champ des sciences de l'information en France. Deux de mes collègues, Mélanie Lallet et Lucie Delias, avaient déjà publié un premier papier en 2018, qui est vraiment, on peut dire, une des premières études qui s'intéresse à la manière dont les groupes en ligne sont constitués, enfin les différents visages militants, etc., dans des groupes dits trans, non-binaires, sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Sinon, les principales études, elles viennent du champ international de ce qu'on appelle LIS, c'est Library Information Science, donc les sciences de l'information et des bibliothèques, qui ont le mérite d'apporter beaucoup d'informations sur la manière dont les personnes trans consomment de l'information, recherchent de l'information et qui pointent les différentes barrières auxquelles elles sont confrontées dans leur parcours informationnel.
Si tu veux, on parlera des résultats de cette enquête, parce qu'il y a eu cette enquête et puis tu en as tiré des conclusions. Ça semble un peu évident de tous ces entretiens que tu as menés. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, justement pour marquer cette rupture dans le discours. Je vous propose un petit Janelle Monae et Float, un titre qu'elle a sorti, a priori, là aussi, il n'y a pas très très longtemps.
On est à la page, faut pas croire.
Non, mais là, c'est l'émission où on se rattrape des choses qu'on a loupées ces dernières temps, je crois. Un featuring avec Sun Cutie et Egypt 80. Ça doit pas se dire comme ça. Ça doit se dire Egypt 80. Voilà. Nouveau titre de Janelle Monae. Et on se retrouve d'ici 4 minutes pour poursuivre cette discussion avec Bérangère Stassin sur les pratiques informationnelles des personnes trans dans Daiquiri.
No, I'm not the same. I think I done changed.
baby, I float. It's hard to look at my resume, whoop, and I find a reason to coast. She throwing a thing in a circle, making it viral, I might just elope. Say, listen, lil' mama, you like shibari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me, I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies, over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies, they are not who they pretend to be. I had to protect all my energy, I'm feeling much lighter. Now I look, float on my float on this club. They hanging on to that goose down in my cup. Float on this club. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float, 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 float. I don't dance, I just float, 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 float. I just float. All wear the tire, check out the robe, I'm fresh like a pope. I'm doing my dance on catamarans and you got a coat. I'm counting my blessings, we ain't stressing, just look at this glow. I got that magic, I'm really prepared for whatever, whenever. So who wants to smoke? Came back from the future to take all y'all niggas and take all y'all hoes. They said I was bi, yeah baby I'm bi, a whole nother coast. She stay in the hills, he stay in Atlanta, I pay for them both. My face card don't come with a limit, I swipe it, I spin it, I swear I be doing the most. Float, float on my float on this club. They hanging on to that goose down in my cup. Float on my float on this club. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float, 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 float. I don't dance, I just float, 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 float.
Ambiance jazzy hein, sur les deux chansons.
Hein. Et tu vois, on se le dit pas, mais on se rejoint clair, au final. Vous écoutez Daiquiri, nous sommes en direct jusque 19h. On parle des pratiques informationnelles des personnes trans avec Bérangère Stassin, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Merci d'être avec nous Bérangère, on est super contente de te recevoir une nouvelle fois. On parlait de ta méthode d'enquête tout à l'heure et de pourquoi et comment tu en es venue à mener cette enquête. Mais maintenant, on va certainement sûrement parler de ce que tu en as retiré. Et tu as déjà commencé à nous donner des billes par rapport à cela. On parlait tout à l'heure de vocabulaire. C'est vrai que le milieu trans, c'est un vocabulaire en soi.
Tout à fait. Il y a vraiment un travail d'apprentissage et de socialisation à faire pour pouvoir découvrir tous ces termes. Mais c'est aussi un travail important. Bon, je fais une petite parenthèse, mais pour tous les activités qu'on peut avoir dans une association LGBT, par exemple LGBT+, autour de l'indexation des documents, l'indexation des archives, etc., et la constitution de ce qu'on appelle le queerzorus.
Terme que tu adores.
Que j'adore, d'ailleurs.
Le queerzorus.
Le queerzorus.
Et d'ailleurs, vous trouverez beaucoup d'explications sur ce super concept dans un très beau papier de Sam Boursier qui s'appelle « Les archontes ont du souci à se faire ». Donc Sam Boursier autour du projet notamment d'archives LGBTQI+, à Paris. Donc le vocabulaire, c'est important quand on ne le connaît pas. Alors on ne peut pas indexer ces documents, ça c'est un sujet parallèle. Revenons-en aux personnes trans. Comment débuter une recherche d'information dès lors qu'on ne sait pas quel mot-clé saisir dans le moteur de recherche. Ce que je dis, c'est valable pour un parcours informationnel trans, mais c'est valable pour toute recherche d'information. On a tous eu... des fois, peut-être, une sorte de besoin, un besoin sémantique, ou en tout cas manque sémantique, manque de vocabulaire, en se disant « je sens bien que je dois chercher quelque chose, mais par où commencer ?» Et on voit dans le papier, j'ai mis quelques verbatims, une jeune fille qui ne connaissait pas le mot trans, transidentité, transgenre, etc., donc qui a tapé dans Google « pourquoi on se travestit ?» Donc elle a commencé son parcours informationnel autour du travestissement et de fil en aiguille, elle a remonté en fait par les différents sites et par sérendipité, elle est arrivée au terme trans, transgenre, non-binaire, etc. Donc ouais, ça, c'est intéressant.
Ça peut être des sacrés détours qui peuvent nous faire voir aussi des choses peut-être pas géniales.
Ouais, parfois, ouais. On accède, effectivement, ça fait partie de toutes les barrières. Hein. Juste avant la pause, on parlait des barrières que les chercheurs qui ont commencé à s'intéresser aux pratiques informationnelles ont relevées. Donc, c'est toutes les barrières à la fois d'ordre cognitif, au sens où je connais pas, je n'ai pas le vocabulaire, je ne sais pas quoi chercher, et des barrières psychologiques qui peuvent être liées au choc de tomber sur certains contenus. Et alors, selon les époques, parce que vous voyez bien dans le papier, il y a un croisement aussi entre les personnes nées avant l'arrivée du web 2.0, c'est-à-dire les personnes qui, comme moi, ont grandi, sont nées dans les années 80, et qui, en tant que personne lesbienne, par exemple, n'avaient pas accès à l'information et n'avaient pas beaucoup de représentations de femmes lesbiennes autour de moi. Et les personnes nées à la fin des années 90 et à la fin des années 2000. Cela dit, c'est pas pour autant la jeune fille dont je parle qui a tapé « Pourquoi on se travestit dans Google ?» C'est une personne qui est née vraiment au tout début des années 2000. Mais dans son groupe d'amis, dans son groupe de pères, dans sa famille, ce ne sont pas des questions qu'on abordait. C'était même plutôt des sujets tabous et des sujets dont il ne fallait pas parler. Parallèlement, j'ai dans l'échantillon une personne qui a plus ou moins le même âge qu'elle. C'est une personne qui a fait un coming out déjà lesbien dès l'âge de 12 ans, qui n'avait que des potes LGBT+ au lycée, et qui a grandi dans un environnement où on était très au fait des questions féministes, LGBT, etc. Donc la personne, elle, avait déjà le vocabulaire. Elle savait déjà ce qu'était une personne trans avant même de se rendre compte qu'elle-même était une personne trans. Donc, si on retrace la biographie informationnelle, on voit que les trajectoires sont vraiment multiples et variées.
Est-ce que ça peut dépendre de ta position géographique, de ton milieu social, de l'accès à l'information ? Enfin, il y a plein de... Ouais. Puis le côté temps, comme tu disais, quand il n'y avait pas Internet, et puis maintenant,
oui.
Où ça se
développe. Parce que là, tu mentionnais les bibliothèques avant. Oui. Devoir se rendre en bibliothèque pour se renseigner, c'est pas
demander.
Évident non plus.
Bonjour, je voudrais un truc sur... vous savez
Ça, c'est les autres barrières. D'ailleurs, le queer the Russe, on en reparle aussi à ce moment-là, parce que dans les bibliothèques, il y a plusieurs barrières. Déjà, le fait qu'il n'existe pas de ressources... Alors, si on prend le cas des États-Unis, on a quand même aux États-Unis des États où on n'a pas le droit d'aborder les questions de genre et les questions LGBT à l'école. Donc, dans les bibliothèques dites scolaires, ce qu'on va plutôt appeler les CDI en France, on va pas trouver d'informations. Quand on trouve des informations, quelle que soit la bibliothèque publique, universitaire, etc., si les contenus sont mal indexés, si le thésaurus il n'est pas opérationnel, thésaurus, queerzaurus, on va pas retrouver l'information. Si vous indexez un bouquin homosexualité alors qu'il parle de transidentité, quand on va taper, je caricature, s'il y a des documentalistes qui nous écoutent, en tout cas, si on tape transidentité dans le moteur de recherche, le bouquin indexé homosexualité ne va pas ressortir. Ouais. Donc vous voyez, on en revient encore à cette question de vocabulaire.
Oui, tout à fait.
Et sur les résultats de l'enquête, du coup, tu peux nous faire un petit spoil.
Oui, un petit spoil de... on peut croiser. Donc, en termes de génération, par exemple, par rapport à la découverte de la transidentité. Donc, bien évidemment, on se rend compte que, quelle que soit la génération, on retrouve les mêmes cas de figure. Des personnes qui ont toujours su qu'elles étaient trans ou qui ont très clairement identifié que le genre qui leur avait été assigné à la naissance ne correspondait pas à un ressenti, et ce très tôt dans l'enfance, vers 5-6 ans. D'autres personnes qui s'en sont plutôt rendues compte à l'adolescence sans trop savoir ce qu'il en était exactement, une exploration. On a beaucoup de personnes qui ont d'abord fait des coming out, notamment des hommes trans qui ont d'abord fait des coming out lesbiens avant de se rendre compte qu'ils étaient trans, mais c'est pas toujours le cas, etc. Donc déjà, premièrement, les parcours informationnels, ils ne commencent pas au même moment. Même chose, c'est pas parce que les personnes qui ont par exemple eu accès à des premières représentations très stéréotypées des personnes trans à la télé, donc qui dans les années 90 dans des émissions comme Coucou c'est nous ou C'est mon choix découvrent pour la première fois des femmes trans, alors avec beaucoup de des représentations très stéréotypées, des femmes très féminines, etc.
L'exotisme voyeuriste un peu de l'époque.
Donc, se rendre compte que ces personnes existent. Moi-même, la première femme lesbienne que j'ai vue à la télé, c'était Josiane Balasco dans Gazon maudit. Et je me suis dit, tiens, ça, correspond à ce que je ressens, mais ça ne correspond pas. Enfin, c'est bizarre, mais je vais être comme ça plus tard. Conduire un camion et tomber amoureuse d'une femme hétéro qui ne voudra pas de moi. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour les les personnes se rendent compte, découvrent une femme trans à la télé dans les années 90. Pour certaines, c'est c'est exactement ce que je ressens. Pour d'autres, c'est encore tiens, peut-être que c'est ça ou c'est pas ça, mais je suis pas encore sûre. Et on continue sa vie, etc. On retrouve la même chose à notre époque. C'est un peu plus, l'information est accessible plus facilement, plus rapidement grâce aux réseaux sociaux, au fait que la société est quand même largement évoluée sur ces questions, qu'il y ait beaucoup de représentations de personnes trans, que ce soit à la télé.
Des icônes, oui. Enfin, ça, ce qui aide de dire, ça, c'est possible, ça existe.
Tout à fait. On peut
avoir des trajectoires de vie pas pathétiques et ça.
Des icônes positives, justement. Ça. Et non plus stéréotypes. Et je veux dire, maintenant, on a toutes sortes de représentations, et ça, on en parlera après. Hein, quand on nous oppose la bulle informationnelle et le fait qu'une jeune personne ne tomberait que sur des profils identiques, non, il y a une palette de genre, une palette d'orientation, etc. Mais vous voyez, c'est pas pour autant que, c'est pas parce qu'une personne en 2023 accède plus rapidement qu'en 1990 à des représentations de personnes trans, que son questionnement est accéléré. On retrouve, vous voyez, dans l'article, on voit bien qu'on a plusieurs cas de figure qui se ressemblent. Ok, j'ai accès à plus d'images positives, etc. Mais c'est pas pour autant que du jour au lendemain, je commence une transition. Non, parfois, il se passe des mois, voire des années avant que la personne entame une transition, ou non d'ailleurs, puisque...
Et puis, il y a ce truc que tu disais tout à l'heure aussi, de se retrouver devant des médecins qui peuvent pas apporter de réponse à tes questions non plus, parce que ça arrive, les formations, les jeunes générations sont peut-être plus formées à ce genre de questions, mais il y a quand même, pendant pas mal de temps, les personnes trans sont arrivées devant leurs médecins en faisant des fiches, comme la personne dont tu parlais tout à l'heure, où on était... les sachants.
Bah, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas.
Certainement un peu moins avec les
franchement,
jeunes générations.
Niveau...
Moi, je suis optimiste, en fait.
Niveau endocrino, 90% des entreprises, ils savent rien, en fait. Parce qu'il n'y a pas... On cherche pas, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, on est obligé de créer du savoir entre nous.
Donc, il y a un côté... que je considérerais moi comme positif, puisque rechercher par soi-même, avoir de l'information, c'est aussi peut-être arriver à mieux se situer après par rapport à des discours médicaux qu'on aimerait nous imposer. Mais il y a aussi ce truc d'être complètement perdu au début, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est un autre élément de résultat. On a des discours de type le dangereux web, la secte transgenre qui...
Et la panique morale.
Qui opère sur le web. Et
on
qui
a depuis quelques années, un peu trop.
En gros, si pareil, je caricature le propos qui va recruter chez les jeunes lesbiennes pour leur convaincre qu'elles sont des personnes trans, etc. Bon, on voit bien qu'il y a une diversité de parcours, des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes qui font des transitions, des personnes qui ne font pas de transition, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, une fois qu'on a mis le mot trans, on va dire, sur son ressenti ou sur son identité, bon, j'aime pas trop le terme identité, mais on va l'employer comme ça, on voit bien de quoi il est question. C'est vrai que pas pour autant que la personne n'a pas un deuxième besoin informationnel qui apparaît, c'est « Ah, ok, maintenant que j'ai mis le mot trans », ok, trans, mais quelle transidentité, quelle transitude, etc. Et c'est là que les savoirs communautaires, ils interviennent et qu'ils sont hyper importants. Tout ce travail qui a été fait dès les années 80 par les associations trans, mais dans le même mouvement que les personnes atteintes du VIH-Sida, qui ont dû développer des savoirs dits profanes, expérientiels, amateurs, pour contrer les discours médicaux, les discours politiques, et se réapproprier leur propre parcours de soins, leur propre maladie, etc. Le phénomène, il est exactement le même avec les personnes trans qui deviennent expertes de leur propre parcours, développent des savoirs, qui n'ont pas vocation à remplacer les savoirs médicaux, c'est pas l'idée, ça c'est pareil, c'est une idée reçue ou c'est un mensonge. Quand on dit ils remettent en question, certes, les personnes remettent en question certains savoirs médicaux et certains savoirs académiques, mais l'idée n'a jamais été de dire on va se passer des médecins, on va se passer des chercheurs, etc. C'est plutôt des hybridations. Et dans un magnifique site comme Wikitrans, c'est clairement le cas. Wikitrans, il est créé par des femmes trans pour des personnes trans. Il est alimenté par des personnes trans qui ont développé des savoirs à travers leur parcours et leur histoire, mais les contenus sont également relus, validés, notamment quand il est question de traitements hormonaux, etc., par des médecins qu'on va nommer des médecins alliés, qui sont peut-être eux-mêmes, elles-mêmes trans, LGBT, peu importe.
Le but, ouais, c'est de se sécuriser, pas de faire n'importe quoi et de pas se mettre en danger, et du coup de prendre l'expérience qu'il y a eu des aînés pour justement faire ça de façon safe, en fait.
Ouais. Et on voit que ça continue. Il y a un terme que j'ai beaucoup employé dans l'article qui est la configuration sociotechnique. On voit que voilà, il y a tout le travail fait par les associations des années 80 au même moment que les personnes atteintes du VIH, SIDA, etc. Mais vous avez au même moment d'autres patients experts qui se sont développés en communauté. On peut citer par exemple les personnes atteintes de maladies liées à l'amiante, à la vache folle, etc. Tout ce qui relève des grands scandales sanitaires, ouais, le sang contaminé, etc., des années 80-90. Donc ce sont des communautés qui se structurent dans les années 80, qui évoluent grâce à la technologie, plus d'informations accessibles, des réseaux qui se constituent plus facilement, des sites web qui ensuite deviennent des blogs, des wikis, des comptes Facebook, etc. Et puis des personnes qui sont de plus en plus au fait de certaines questions.
Et c'est l'avantage du savoir communautaire, en fait.
Tout à fait.
Tu parlais du Wikitrans, on parlait aussi des associations qui... Alors là, c'est déwebisé, on va dire, c'est de l'humain, mais... Quoique les pratiques internet, il y a aussi de l'humain derrière. Mais donc il y a ce site de Wikitrans, mais il y a d'autres ressources qui ont été citées plusieurs fois, je pense, dans ton enquête, ça pourrait être intéressant qu'on les cite pour les personnes qui seraient désireuses de trouver des nouvelles sources d'informations, justement.
Oui. Donc, comme j'ai dit, Wikitrans, il y revient dans toute... si on trace le réseau de sites, on aurait un nœud central avec Wikitrans, en fait, qui est beaucoup utilisé pour l'information médicale en lien avec les traitements. Bien que sur Wikitrans, il y ait aussi toute une documentation sur les démarches administratives ou des sortes de tutos liés à des aspects plutôt relatifs au passing, etc. Ça peut être des tutos maquillage, des questions par rapport aux tenues vestimentaires, etc. Donc Wikitrans, on va plutôt le répertorier sur les traitements hormonaux, chirurgicaux, etc. Une information médicale qui est vraiment accessible parce que vulgarisée et, je le redis, validée par des vrais médecins et... Donc les contenus sont fiables. Les sites d'associations comme Chrysalide, par exemple, ou...
qui est à Lyon.
Oui, le forum...
Il y a Outrans qui est sur Paris.
Il y a BD Trans.
Oui.
BD Trans. Mais
alors, il faut mettre à jour, je pense.
Oui,
aussi,
BD Trans n'est plus à jour et je pense que ça viendra peut-être d'un deuxième papier qui sera peut-être publié dans quelques temps en lien avec un groupe Discord régional. Alors, peut-être que le fait qu'au sein de Discord se structurent des groupes de parole dits trans régionaux, donc qui sont ouverts à tous, mais principalement à des personnes vivant dans telle ou telle région, fait que l'information en lien avec les médecins safe, les endocrinos que vous pouvez trouver facilement dans votre région ou dans votre ville, fait que, comme l'info, elle circule beaucoup sur Discord, qui est aussi une ressource qui ressort beaucoup. BDD Trans n'est peut-être plus mise à jour par rapport à ça, parce que l'information, elle se déplace. Forcément, les pratiques informationnelles, elles évoluent aussi avec les outils. Et il y a des sites comme ça qui ne sont plus alimentés. On voit bien sur les blogs, par exemple, parfois, il y a des blogs qui sont encore très pertinents, mais qui ne sont plus alimentés depuis des années, quoi.
Et là, croiser les ressentis. Des fois, t'as les ressentis d'une personne qui s'est peut-être sentie bien accueillie, et puis ça fonctionnera peut-être pas pour toutes les autres personnes. Donc c'est vrai que c'est délicat de figer comme ça.
Puis localement, là, on les a cités. Du coup, il y a Parole Trans, qui a un Discord qui existe ici. Vous pouvez les contacter. Ils ont une page Facebook où, du coup, il y a le lien vers le Discord. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire.
Un groupe très, très, très actif.
Et on a le groupe trans d'Execo, qui s'appelle En Question, qui se retrouve tous les mois et qui fait aussi de l'accueil pour les personnes en questionnement. Ça peut être pour les parents aussi ou les amis qui veulent aider une personne à bien vivre sa transition. Et en plus, il y a d'autres propositions qui sont faites aussi sur Reims. Donc si jamais vous êtes en galère par rapport aux hormones, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas.
Super.
Et juste, est-ce que dans tes études, dans les recherches que tu as faites, est-ce que tu as rencontré une personne qui aurait speedrunné sa transition, donc du coup qui, genre en trois jours, est passé d'un genre à l'autre? Parce que c'est un peu l'argumentaire des personnes transphobes qui vont dire oh, mais regardez, on va pousser des enfants de 6 ans à devenir trans en 3 jours parce que les médecins alliés vont leur tout leur donner comme ça super facilement.
J'en ai pas rencontré. Alors après, c'est pareil, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Là, je le dis bien dans le papier. Moi, j'ai enquêté dans un groupe, on va dire, de personnes qui, de personnes éclairées, qui ont quand même tous et toutes une activité professionnelle, fait des études, etc. Je ne veux pas dire que les personnes qui n'ont pas fait d'études, non. Mais disons que par rapport, on va dire, au rapport à l'information, aux documents, etc., on est dans un groupe particulier de personnes étudiantes ou travaillant, je ne sais pas, en tant qu'enseignant, ingénieur, etc. Donc déjà, moi, ce que j'ai observé dans ce groupe de personnes et dans les témoignages annexes que j'ai pu collecter dans les différents groupes de parole et dans les associations, je n'ai pas rencontré ce cas de figure, puisque une chose qui est revenue beaucoup, en fait, c'est les... En sciences de l'information, on parle beaucoup du besoin informationnel, le manque d'informations et de connaissances qui m'empêchent d'agir, de prendre une décision et qui créent un fort sentiment d'anxiété, d'angoisse, de stress, d'incertitude, puisque je ne sais pas quoi faire, je manque d'informations. Est-ce que je dois prendre un traitement? Si oui, quels vont être les effets secondaires? Si je prends ce traitement, est-ce que je dois faire une chirurgie ou pas pour devenir un homme ou devenir une femme? Est-ce que ça va faire mal, etc. J'ai quand même un argument qui revenait beaucoup, c'est que les personnes ne souhaitaient pas nécessairement jouer avec leur santé. Alors après, voilà, on sait que la société a évolué, que les savoirs communautaires ont vraiment structuré beaucoup de choses, mais les personnes ont vraiment passé une phase d'information qui, pour certaines, a duré près de 10 ans. Notamment pour les plus âgés. Pour les plus jeunes, je prends l'exemple d'un homme trans qui a vraiment posé le mot trans à l'âge de 16 ans, mais qui a commencé un parcours de transition plutôt vers 26-27 ans. Plusieurs raisons, les personnes veulent vraiment être sûres. Il y a aussi des questions de stabilité professionnelle ou de relations avec les parents, etc.
Entourage, bah oui.
La société aussi qui reste encore super transphobe.
Voilà. Faut aussi rappeler que tout l'aspect médical, quand il y en a, quand on fait ce choix-là, ça prend du temps.
Tout à fait.
Donc ça peut être aussi un vecteur de rallongement de ces périodes de prise de décision.
Surtout avec les équipes officielles qui ont un peu comme but de ralentir les personnes pour pas les aider, en fait. Ce qui peut amener des états dépressifs et du coup de la mise en danger. Parce qu'on rappelle que les personnes trans sont une communauté qui est plus enclin au suicide que les autres. Déjà que les LGB sont déjà beaucoup touchés, quoi.
Oui, donc dans toutes les personnes rencontrées, en tout cas, étaient quasiment toutes dans un suivi, un suivi médical. Donc la transition est faite dans un cadre médical, qu'il soit dans le secteur public, donc ce qu'on appelait la SOFECT avant, qui maintenant s'appelle la...
Ils changent de nom tous les 6 mois, j'ai l'impression.
Je ne sais pas le prononcer en acronyme. Les autres personnes sont dans un secteur privé, donc c'est elles-mêmes qui font les démarches, rencontrer un endocrinologue, rencontrer un psychiatre, même s'il n'y a pas besoin d'attestation psy pour commencer un traitement hormonal. Certaines personnes souhaitent quand même faire cette démarche. Certaines personnes sont suivies par des psychologues. Il y a un beau papier de Tom Rocher qui dit qu'il n'a jamais été question de dire que les trans n'avaient pas besoin de psy, etc. Enfin,
lui-même est un psy trans.
Oui, ont besoin de médecins, de professionnels de santé. Les personnes font attention ne veulent pas jouer avec leur santé, et l'idée pour elles, c'est d'être elles-mêmes, d'être bien, d'être mieux, et certainement pas de s'engager dans des choses qui pourraient être dangereuses. Et toutes les personnes, je tiens à le dire, de l'enquête se définissaient comme personnes trans, mais toutes n'ont pas engagé une hormonothérapie et toutes n'ont pas réalisé des transitions chirurgicales. On sait que dans la société civile, c'est toujours le point sensationnaliste. Depuis que je travaille sur les personnes trans, je ne sais pas combien de fois on m'a demandé ce que mes enquêtés, comme on dit, c'est pareil, j'aime pas ce terme, avaient entre les jambes.
Ouais, bah c'est l'exotisme bon. Des cis qui...
Donc il faut quand même bien répondre, parce qu'on peut toujours dire ça te regarde pas, et en même temps tu te dis comment tu veux faire avancer les choses si tu n'expliques pas aux gens. Donc j'ai expliqué que bah, voilà, j'avais rencontré des femmes trans qui étaient opérées, comme on dit, d'autres non, des garçons trans qui avaient encore leur poitrine, des garçons trans qui n'avaient pas fait de traitement hormonaux, et ça, c'est grâce au savoir communautaire. Vous voyez, on en revient avec cette idée de bulle de filtre qu'on m'a déjà opposée, hein, en me disant oui, mais toutes ces personnes, elles sont perdues dans la bulle de filtre, dans des réseaux Discord, Facebook, Instagram, et finalement, elles consultent toujours les mêmes profils. Eh bien, en réalité, oui et non, effectivement, dans la bulle de filtre, on va arriver toujours à des profils dits LGBT, mais on va arriver à des profils d'influenceurs, influenceuses, trans, non-binaires, genderqueer, gays, pansexuel, polyamoureux, etc. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment une large palette de représentations désormais. Et si je prends l'exemple de cette jeune fille qui avait commencé son parcours informationnel autour du travestissement, qui s'est informée, renseignée pendant plus de 3 ans, à la fois bouquins de sociaux, bouquins médicaux, etc., et qui en arrivait à la conclusion qu'elle était trans, plutôt non-binaire, et qu'elle n'avait pas besoin d'entamer une transition médicale pour se dire femme trans. Et donc voilà, le parcours informationnel a amené à cette conclusion. Mmh. Je suis trans, mais je ne ferai pas de transition médicale.
Parce que chacune choisit.
C'est ça, chaque c'est parcours ça. Est quand même choix. Individuel. On la trouve où ? Tu peux nous rappeler où on peut trouver ton enquête, Bérangère ?
Oui, donc elle sera accessible en ligne, elle est accessible en ligne. Donc la revue s'appelle Balisage, c'est une toute nouvelle revue en sciences de l'information et de la communication qui est donc éditée par l'ENSIB à Lyon. Donc, accessible sur le site de la revue Balisage, comme ça se prononce, dans le numéro 5.
Super. Bah, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et de nous avoir transmis ce papier qui m'a beaucoup plu. 30 pages, les amis. On vous donne un peu la quantité pour ne pas vous faire peur.
Ces titres sont géniaux. Moi, j'ai beaucoup ri sur la recherche. Ça aide à la lecture.
Les amis, il nous reste moins de 10 minutes à passer en direct ensemble. Peut-être que nous pourrions faire un petit agenda où tu articules et on comprend ce qu'on va donner comme rendez-vous.
Oui, allez. Je vais essayer.
Hey, plein de rendez-vous en plus à
annoncer. Pour une fois, je vais pas speedrunner l'agenda.
C'est vrai, hein. T'as vu ?
Je vous ai appris un mot, je crois, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'on t'a regardé toutes les deux bizarres. Tu m'as regardé, je me suis dit non, je n'ai pas cette information.
À la base, c'est pour en fait jouer à un jeu vidéo, mais du coup, le faire la version le plus rapidement possible en se servant des fois des mécaniques qui ne sont pas prévues pour aller plus vite. Mais voilà. Il y a des championnats de ça, c'est un lore à découvrir. On fera une émission là-dessus si un jour. Donc l'agenda.
L'agenda.
Est-ce que c'est mis ? Non, c'est pas mis dans l'ordre.
Cette semaine,
donc, je vais essayer de mettre ça dans l'ordre.
Ce n'est pas demain, non, jeudi.
On commence avec jeudi. Donc jeudi, le planning familial de la Marne organise une projection à l'Opérins à 20h30 de My Name is Clitoris. Donc c'est un film documentaire qui a l'air super cool et que je crois que toi et moi et Mo, on a déjà vu.
Oui.
On n'est pas sûr, donc on découvrira jeudi parce qu'on y sera.
C'est de 20h30 à l'Opérins.
Ouais, et spoiler alerte, attention, avec les grèves qu'on soutient, bien sûr, il n'y aura pas de transport pour rentrer, donc prévoyez de rentrer à pied ou trouver un moyen de venir en vélo, en skate, en trottinette, en patin, je ne sais pas quoi. Samedi, nous avons deux rendez-vous.
Samedi, nous serons le 25 mars.
Donc le matin, on commencera avec le groupe La Voix des Hyènes, qui est un groupe féministe, qui organise un groupe de parole de 10h à 12h sur le thème des violences sexuelles et sexistes à la Maison de la Vie Associative. Donc vous pouvez les contacter pour vous inscrire sur leur Instagram La Voix des Hyènes.
Oui. Envoyer à l'heure un petit MP, voilà, comme
un
on
MP,
dit.
MP, comme disent les jeunes, hein, LOL, MDR. Et l'après-midi, il y aura le rendez-vous, justement, du groupe Genre en question. Je ne l'ai pas encore mis à jour, mais vu que on est dans le mois de la journée de la visibilité des personnes trans, on parlera de la visibilité des personnes trans. Qu'est-ce que c'est original ?
Oui.
Oui, mais bon, des fois, on n'a pas d'idée. Hein,
donc voilà. Si vous avez des questions, notamment sur cette émission, vous pouvez venir et proposer vos propres sources d'informations.
C'est ça. Donc ce sera à 14h30 au local d'Execo, 25 rue du Jard. Et l'autre rendez-vous, donc le... Ah ben non, j'ai voulu faire dans l'autre, mais j'ai zappé un truc. Parce que le vendredi soir, au bar associatif encore d'Execo, nous aurons une permanence du Cégide qui viendra de 18h30 jusqu'à 20h45, si je ne m'abuse, dans nos locaux pour faire des tests et répondre à vos questions de santé sexuelle. Donc si ça vous évite de vous déplacer à l'hôpital, donc profitez-en.
Et c'est à l'association, mais vous inquiétez pas, c'est dans une pièce à part. Vraiment, on respecte... Enfin voilà, le Cégide, c'est du sérieux.
Et contrairement à l'hôpital, tu peux boire un verre après avoir fait ton petit test.
Ce qui est plutôt cool, hein.
Bah oui, j'avoue. Et le dernier événement, alors du coup là, on passe dans le mois d'avril. Vitesse lumière, on n'a pas encore les...
Tu veux que je remette le jingle ?
Non, vas-y. Donc, il y a un rendez-vous super chouette qu'on fait avec l'association le 15 avril. Donc, il y a Daisy Le Tourneur, l'autrice donc, du blog La Mexpliqueuse. Donc, ça a d'abord été connue par ça. Et qui a écrit un livre sur les masculinités en 2017 qui s'appelle « On ne naît pas homme », si je ne m'abuse.
Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est
ça. Oui, on n'a pas pris de notes.
En plus, je suis allé la voir déjà à Charleville pour parler de ça. Et
tu ne sais pas.
C'est même moi qui ai fait l'affiche, mais bref. Donc, c'est une militante féministe trans et lesbienne, membre du collectif Toutes des Femmes. Donc, du coup, elle viendra parler de son bouquin. Donc, si vous pouvez l'acheter avant pour le lire et après lui poser toutes les questions que vous voulez pour avoir des précisions, même si apparemment le bouquin est déjà super quali. Et sinon, vous pouvez même juste venir pour l'écouter parler. Normalement, on pourra acheter le bouquin sur place, le faire dédicacer, parce que c'est l'intérêt de faire venir les auteurices sur place. C'est qu'après, on part avec une petite dédicace.
Et tu peux même, peut-être, si la personne est d'accord, faire un selfie. Pour les Jones.
Pour les Jones. Hashtag Jones. Représentation. Hashtag regarde qui j'ai vu. Hashtag vive les réseaux.
Ok, et ça c'est à 14h30 au local du Xeco, 25 rue Dijard, c'est à côté du conservatoire en plein centre-ville, donc accessible à tous. Mais on peut aussi se voir le jeudi à la manif, bien sûr, puisque nous sommes de toutes les manifs, et justement on va terminer avec un son de manif.
Parce que là c'est la semaine du Sbeul, hein, donc allez en manifestation si vous pouvez, si vous y allez faites gaffe à vous, et on vous embrasse et on espère qu'on va gagner.
Et le mois prochain, on se retrouve, on parlera peut-être, spoil et de l'annonce avant l'heure, parlera de drague et de la semaine
mais
des
drague,
visibilités.
Mais drague, pas celle qu'on drague. Hein.
Non, celle-ci, on l'a déjà faite.
Les personnes.
Drague. D'ailleurs. Alors, on se quitte avec un extrait du dernier album des Vulves Assassines, La Retraite. On vous dit au mois prochain sur Radio Primitive pour Daikiri.
Bisous.
Salut et merci Barangère.
Merci à vous deux.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battra pour la garder.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La du bricolage, des mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils ont des gueules à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les machines s'envoient en l'air dans l'église. Qu'elles parlent ou pas, attaquent, nous mettent minables, on frappe. Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes au vin, ou qu'elles plantent le soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de joie dans les parcs qu'on était. C'est comme qu'à libérer les cheveux gris au vent, courant un bois vers le levant, qui fait chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite, 60 ans.
se battra pour la garder. Le retrait.